Merci. Voilà, merci. Nous avons la joie d'accueillir Camille Riquier, qui est actuellement le doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Voilà, c'est mieux de mettre en mode avion. Non, j'essaye de voir ce qui trafique. En fait, Camille, on se connaît parce que nous avons eu le même maître. Pour ce qui me concerne, vous savez qui c'est, puisqu'il s'agit de Jean-Louis Chrétien. Et donc, on était tous les deux, en fait, des frères, sans le savoir, quoi. On s'est rencontrés que très tardivement. En fait, on s'est vraiment rencontrés aux obsèques de Jean-Louis Chrétien. Et voilà, donc c'est quelque chose qui s'est noué à ce moment-là, et c'est la postérité de ce grand philosophe que nous vivons voilà aujourd'hui. Camille a écrit spécialement sur la philosophie, on pourrait dire moderne et contemporaine. Il a fait sa thèse sur Bergson. Il a écrit un très beau livre, Archéologie de Bergson, au PUF. Sylvia, aujourd'hui, c'est en raison de son livre Philosophie de Peggy, qui date quand même déjà maintenant.
Oui, 2017.
2017, voilà. Il sort dans quelques semaines, c'est ça, un livre sur Sartre et Descartes. Le titre, c'est...
Métamorphose de Descartes, Métamorphose. Le secret de Sartre. Voilà. C'est pas très bon titre, mais tant pis.
Métamorphose de Descartes, le secret de Sartre, voilà, chez Gallimard. Et puis, il a écrit récemment un livre qui s'intitule « Nous ne savons plus croire », justement sur croire et savoir, thème classique. Et tu viens de sortir d'ailleurs un petit livre que tu m'as donné, donc chez Gallimard, pour les
15 ans, je me suis essayé à leur parler, mais rien n'est garanti.
Qui s'intitule
« Est-ce que tu sais ou est-ce que tu crois ?»
Voilà, mais si je l'ai invité, c'était pour vous parler de Charles Péguy, auteur qui nous est cher à tous, et avec d'ailleurs, une amplitude, vous voyez, dans les amis ou les amateurs de Péguy, qui est assez exceptionnelle. Péguy, qui était socialiste et en même temps, on pourrait dire, un penseur qu'aiment les réactionnaires en même temps, et c'est ça la question, bon, et qui... un catholique, mais qui a aussi été un grand ami des Juifs, ami de Bernard Lazare et d'autres, donc bien sûr Dreyfusard aussi, quelqu'un qui était un homme profondément de paix, mais qui s'est préparé à la guerre. Même avant la Première Guerre mondiale, il s'entraînait, et qui a écrit, bien sûr, peut-être les plus belles pages sur ou avec Sainte-Jeanne d'Arc, qui était l'héroïne, enfin pour lui, la sainte la plus grande après Sainte-Marie, hein, comme il le dit dans un de ses poèmes, et celle qui était à la fois, qui savait à la fois la guerre et la prière. Le chef de guerre, qui est aussi le maître de prière et qui est le seul... qui puisse nous diriger. C'est ça, ultimement, si vous voulez, on pourrait dire Péguy politique. Mais voilà, mais je voulais, en cette période, bien sûr, présidentielle, enfin de campagne, voilà, qu'on puisse avoir une grande figure dont on pourrait parler avec Camille, qui le connaît particulièrement. Alors, on se réjouit de t'entendre.
Merci. Merci, Fabrice, pour cette invitation. C'est la première fois, comme je le disais, que je viens, non pas en Suisse, mais à Fribourg, et à Philanthropos en particulier, donc je découvre toute cette communauté fraternelle, très accueillante. Je m'attendais même à être à l'hôtel, vous voyez, à faire ma conférence, à rentrer ensuite comme un pauvre air. Donc je me réjouis vraiment de cet accueil assez inattendu. Après, la question s'était posée de savoir de quel Péguy j'allais parler. Je m'attendais à parler du Péguy chrétien. Fabrice m'a dit, mais pas du tout. D'abord parce que visiblement vous le connaissez un petit peu, bien, mais plutôt du Péguy socialiste, en tout cas du Péguy d'avant. Donc je vais plutôt m'attarder sur le Péguy des premiers écrits, jusqu'à d'ailleurs les derniers, hein, je vais montrer quand même qu'il y a une unité de parcours, mais je m'arrêtais tout de même au moment où il confesse sa foi chrétienne avec le mystère de la charité de Jeanne d'Arc en 1910, où il devient littéralement poète pendant 3-4 années d'intensité incroyable, où se résume au fond son œuvre véritable, qui est poétique. Là, ce sera l'œuvre en prose, ici, qui va nous occuper. Et donc, alors je prends 45 minutes, une heure, et puis peut-être après, il y aura un temps pour les questions. Il était bon de connaître le public avant, parce que c'est ça qui donne le ton et la manière de parler. Voilà, tout ça, je le découvre en même temps. Mais je parlais donc de la révolution sociale, du socialisme de ses débuts, qui n'a jamais renié, il s'agira justement de le montrer. Et puis, la manière même dont, en quelque sorte, il a rejeté le monde moderne. J'essaie de montrer quand même une unité de parcours. Et je vais l'articuler autour de la notion d'événement. Peggy, c'est ce que je montrais aussi dans mon livre, c'est qu'il a... la liste des livres qu'il n'a pas écrit ou qu'il aurait voulu écrire est bien plus grande que celle des livres qu'il a effectivement écrits. Et donc souvent, un ami faisait la confidence de tel ou tel ouvrage qu'il aurait aimé écrire, parce qu'il aurait aimé être philosophe. D'ailleurs, c'est moi, ma culpabilité à moi, c'est qu'il s'est refusé à l'être, considérant qu'on ne pouvait pas être philosophe dans un monde injuste. Que tant que la cité était mésharmonieuse, on ne pouvait pas vivre comme un parasite à penser des châteaux dans le ciel. Bon, ce qui, pour un universitaire, finalement, est une mise en accusation directe. Donc il a dit, pour l'instant, c'est un devoir social qui m'attend, il faut que la cité soit harmonieuse, il faut, si je puis dire, que je mette les mains à la pâte, que je sois aussi travailleur productif, pour pouvoir me permettre aussi, dans mes heures perdues, de pouvoir me consacrer à la philosophie, à la science et à l'art. Donc il a choisi ce chemin plutôt que celui de la philosophie, qui était pour lui... le chemin qu'il attendait, c'était sa vocation première. Il le dit même, son premier Peggy en date, c'est ce qu'il dit dans le Fernand Laudet. Donc il y a un Peggy virtuel que j'avais essayé de ressusciter dans ce livre, de ce Peggy qui aurait aimé enseigner la philosophie, de ce Peggy enseignant dans un lycée de province, qui était son rêve. Vous voyez, bon, ben alors voilà. Parce que c'était pour lui le plus beau métier du monde. Mais malgré tout, il est resté philosophe, et dans tous ses écrits, sourd à toute une pensée philosophique. Et ça, il ne l'a jamais cessé de l'être, puisque ses derniers ouvrages sont consacrés à Bergson, à Descartes. Ça transpire de partout, malgré tout. On ne peut pas mettre un trait sur ce qu'on est véritablement. Donc il avait songé, effectivement, faire aussi un livre sur l'événement, qui se serait appelé « De la souveraineté de l'événement ». Et il a toute une pensée de l'événement, qui, pour lui, comme pour beaucoup d'autres, mais c'est un des premiers d'ailleurs à avoir pensé cette notion, hein, avant tous les autres, je pourrais dire, Deleuze, Badiou ou tant d'autres, c'est vraiment le premier, à montrer que l'événement n'appartient pas à l'ordre des faits. Les faits, c'est ce qui se suivent à la queue leu-leu, qui s'enchaînent selon des lois de cause et d'effet. L'événement, lui, il arrive de façon souveraine, inattendue, subite, il jaillit ou nous tombe dessus. Et le plus souvent, il n'entre pas dans le rang, justement, dans le rang des faits. Il dérange plutôt l'ordre et la connexion des faits en provoquant, en quelque sorte, une césure inattendue. Alors, ça fait événement. Et pour Peggy, évidemment, il y a toutes sortes d'événements. La naissance est un événement. Mais malgré tout, entre tous ces événements, il y en a quelques-uns, assez rares, qui sont littéralement sismiques, voire cosmiques. Parce qu'ils font monde. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui, parce qu'ils, si je puis dire, remontent sur l'axe vertical du spirituel si profondément et ils s'étendent si vastement sur l'axe, on va dire, du temporel, qu'un monde éclot, qu'un monde jaillit, que ça fait monde. Hein. Et lorsque ces événements réussissent à s'insérer dans le monde, dans le tissu de l'humanité, eh bien, comme ils le disent, ce n'est rien de moins qu'un monde, un nouveau monde qui éclot. Et ces événements-là, alors il n'y en a pas beaucoup, je vous cite un passage où il dit « L'histoire ne compte que 3 ou 4 de ces grands ébranlements. » Et ces événements, effectivement, n'entrent plus dans le monde, ils sont plutôt le point source à partir duquel, justement, un monde nouveau jaillit, un nouvel ordre s'institue, une nouvelle humanité même née à elle-même, parce que d'une certaine manière, ils ouvrent aussi une nouvelle chronologie. C'est très simple. Avec un événement, il y a cette césure qui fait qu'il y a un avant et un après. C'est à partir d'eux, si je puis dire, qu'on recommence le compte et le décompte des années. Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Enfin, un événement. Qui n'entre plus, si je puis dire, dans l'ordre des faits, puisque précisément, c'est à partir de lui que tout se réorganise et qu'un monde nouveau jaillit. Donc il y a eu quelques-uns de ces événements qui ont fait monde, ébranlement. Mais 3-4, il hésite. Peut-être faut-il préciser, justement. C'est qu'un événement ne conduit pas automatiquement... J'en ai perdu déjà un. J'ai l'impression. Oui, parce que quand on est chrétien, c'est la brebis égarée. C'est ça, on pense qu'à ça. Bon. Les 30 justes sont là, mais c'est évidemment la brebis qui s'en va, qu'on aurait bien voulu rattraper. Bon, peu importe, excusez-moi. Donc, ce que je disais, c'est que... Oui, il va revenir. On est poli à Philanthropos. Non, un événement ne conduit pas automatiquement à la naissance d'un nouveau monde. Et donc, on pourrait préciser, justement, et c'est ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on va dire 4 ébranlements, 4 événements, mais 3 mondes. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un raté. Hein. Et le raté, c'est Peggy, c'est la période de Peggy, c'est celle qu'il a vécue. On va dire qu'il y a eu 4 ébranlements, 4 événements, mais seulement 3 mondes. Parce que Peggy parle en termes de monde antique, le monde chrétien et le monde moderne, le nôtre. Enfin, en ce moment, il est quand même très fatigant et très fatigué. Mais disons que Peggy, lui, était en plein dans ce monde à ce moment-là. Et donc, Peggy va dire qu'il y a eu, au fond, un événement qu'il a connu et qui a ébranlé le monde chrétien, le monde républicain, comme, si je puis dire, l'événement de Dieu avait ébranlé le monde antique. Hein. Et cet événement-là, ça a déjà été annoncé, c'est l'affaire Dreyfus, pour lui. Ça a été l'événement de sa vie, en même temps, l'événement qui, si je puis dire, au seuil du monde qu'il annonçait, parce qu'en un sens, cette affaire-là était un événement qui annonçait un nouveau monde. C'est un événement qui a échoué, pourtant, à se fonder, qui a échoué, en quelque sorte, à faire monde. Ce monde aussitôt évanoui, à peine préformé, qui jaillissait de cet événement-là, c'était, ou ça aurait dû être, le monde socialiste. C'est pour ça que le socialisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, ou tel même qu'il a commencé à faire partie en parti socialiste en 1900, c'est plus le socialisme qu'il avait envisagé. Ce qui fait que, du coup, tout le monde peut se reconnaître au pays. Et Edwige Plenel d'un côté, comme Alain Finkielkraut de l'autre. Vous voyez, c'est ça l'étonnant... Je crois que certains disaient, moi je suis croyant ou théologien, mais comme Peggy. D'autres disent, moi je suis socialiste, mais comme Peggy. On ne sait jamais très bien de quoi on parle, mais voilà, vous pouvez rajouter ça, ce qui à chaque fois a tendance à brouiller les lignes. Donc, ce qui m'intéressait aussi chez Peggy, c'est qu'il pense l'événement. Je pense qu'il l'a pensé de façon aussi rigoureuse conceptuellement que pourrait le faire un Deleuze et un Badiou, mais d'abord parce qu'il l'a connu dans sa chair, in situ. Et qu'on ne parle que de ce qu'on a éprouvé d'abord. Ça, c'était, si je puis dire, une ligne de conduite chez Peggy, qu'il se voulait d'abord un témoin. Hein, et qu'il ne parle pas, par exemple, de l'économie en général, mais de l'économie de sa revue, de sa petite économie. C'est comme ça, si je puis dire, qu'on peut parler réellement, concrètement des choses. Mais de la même manière, on peut penser l'événement, mais à partir de celui qu'on a soi-même connu. Et c'est ce qu'il a fait. Hein, jamais il aurait, si je puis dire, réfléchi sur l'événement si... celui qui avait ébranlé sa vie n'avait pas dû échouer d'une certaine manière. Donc la question, c'est celle-ci qu'on se posera, c'est comment le socialisme, celui de sa jeunesse, à l'occasion de l'affaire Dreyfus, en est-il venu à manquer son insertion dans le monde? Comment en est-il venu à manquer son insertion dans un corps de peuple, comme il le dit, alors que tout s'y prêtait? On va le voir, c'est qu'au fond, pour lui, la venue du monde socialiste était imminent. C'était tout le contraire d'une utopie. On en parlera. Donc, il me semble que c'est peut-être une des questions rectrices qui a traversé son œuvre, parce qu'on a tendance souvent à découper l'œuvre de Peggy en 3 périodes, de découper sa vie, sa pensée en 3 périodes distinctes, suffisamment tranchées d'ailleurs pour les étudier indépendamment les uns des autres, c'est-à-dire le Peggy socialiste d'abord, le Peggy critique du monde moderne ensuite, et puis enfin le Peggy chrétien, patriote, enfin. et chacun prend celui auquel il s'identifie le plus. On aurait Edwy Pennell qui s'attache d'abord au premier, Finkielkraut au deuxième, et son grand tort, c'est justement de ne pas avoir connu l'espérance et la foi chrétienne, qui fait qu'il est profondément mélancolique, puisqu'il s'est arrêté, si je puis dire, au seuil du deuxième. Bien. Eh bien, j'aurais tendance à dire que c'est le même. C'est-à-dire que Peggy a toujours resté, fidèle à lui-même et à l'événement de sa jeunesse, qui a été l'affaire Dreyfus, qui a été son combat initial. On pourrait dire que le ciel et la terre peuvent passer, mais pas Peggy. Des mondes ont passé, mais Peggy est resté le même. Et de fait, des mondes ont passé. C'est-à-dire que justement, il a vu le passage d'un monde à un autre. De l'ancien monde au monde moderne, dont il a vu l'installation progressive. Donc j'aurais tendance plutôt à renverser la chose, et que Peggy, s'il est inconstant, il a simplement l'inconstance de sa constance. Comment rester le même dans un monde qui ne cesse de changer, qui subit la loi du temps inexorable, la loi du vieillissement inexorable. Donc j'aurais tendance à inverser les choses, et il me semble qu'il est toujours resté fidèle à lui-même, y compris même de ses premiers ouvrages. C'est ce qu'il dit sans cesse, je ne renie rien de mon passé, pas un atome de mon passé. Donc lorsqu'il écrit Notre jeunesse, et que tout d'un coup Barrès lui tend les mains, en disant, mais voilà, bienvenue à droite, ouais. Il va dire, oui, je suis chrétien, mais je demeure socialiste. De la même manière qu'il dit, mais en fait, et quand j'étais socialiste, au fond, sans le savoir, j'étais déjà chrétien. Bon, ça, ce serait un autre sujet de conférence, parce que je trouve ça sublime, cette manière dont, finalement, il a rencontré le christianisme, non pas par conversion, mais par approfondissement de sa voie, s'apercevant, si je puis dire, que, au fond, déjà, lors de sa conversion au socialisme, il n'avait peut-être pas trouvé Dieu, mais Dieu l'avait déjà trouvé. Hein, et qu'il n'avait plus, si je puis dire, qu'à approfondir cette voie pour, au bout de chemin, confesser sa foi chrétienne. Donc, c'est le début, c'est ce premier Peggy dont je vais parler, estimant qu'en quelque sorte, sa vie, sa pensée n'a jamais enregistré un quelconque progrès. Il n'a pas changé, dit Peggy, il n'a pas progressé. Son chemin de vie, de pensée, comme il le dit, s'est fait dans le sens d'un approfondissement. C'est le mot qu'il ne cesse d'employer. Il n'a eu de cesse de tenir le même chemin, de l'approfondir au-dedans de sa mémoire, et, comme il le dit dans le Fernand Lodet, c'est par un approfondissement du cœur, c'est son expression, qu'il a été conduit à la foi chrétienne. Donc en un sens, on peut dire effectivement que toute sa vie, toute sa pensée, ont été avant tout une méditation sur le socialisme, sur la révolution sociale, et une rumination de son échec. C'est comment, alors que c'était sur le point de faire monde, comment on en est arrivé à échouer? Comment, si je puis dire, au lieu du monde qu'il attendait, qui était sur le point, si je puis dire, d'arriver, le monde socialiste, on a eu en lieu et place un autre monde, le monde moderne, un désastre. Voilà. Donc c'est ce moment de bifurcation dont il a été témoin qui doit nous intéresser. C'est comment on en est arrivé à avoir été trahi à ce point par cet événement-là, qui nous promettait un nouveau monde et qui nous a donné, si je puis dire, le contraire absolu de ce monde dont ils avaient préparé la naissance et la vie, le monde socialiste, le monde moderne. Donc voilà, c'est un peu la question qu'on se posera aujourd'hui. Et évidemment, tout ça, on peut le résumer d'une formule que vous connaissez bien, et toute sa pensée peut se ramasser dans cette formule célèbre qu'il énonce dans Notre jeunesse. Tout commence en mystique et tout finit en politique. Parce que justement, on le verra, c'est que peut-être que le plus grand malheur du dreyfusisme, sa plus grande défaite, a été dans sa victoire. D'avoir été victorieuse. Pour Peggy, on va le voir, c'est pour ça que tout commence en mystique et tout finit en politique, c'est que la victoire pour les hommes est une occasion de chute. Il y a un moment, il le dit, la victoire a quelque chose de métaphysiquement impur. Et la victoire, quand elle corrompt, elle ramollit les meilleures volontés. Souvent même le vainqueur feint d'être arrivé au but et se demande assez rapidement quel profil pourrait tirer de sa victoire. Quel profil pourrait tirer pour lui-même ou pour le parti qu'il défend. Bref, il se met à faire de la politique. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à un certain moment, au début, l'affaire Dreyfus éclatait, il fallait défendre l'innocence d'un homme et on était prêt à mourir pour lui et à mourir pour ses idées. C'est ça la mystique. Littéralement, c'est ce qu'il dit à la fin de notre jeunesse. Qu'est-ce que la mystique ? C'est être prêt à mourir pour. Et qu'est-ce que la politique ? C'est quand, tout d'un coup, on se met à vivre d'eux. Ces idées pour lesquelles on était prêt à mourir, eh bien, à un certain moment, tout bascule. C'est l'effet de la lassitude. On se met à vouloir en vivre. On vit d'eux. Et on fait donc de la politique. Et c'est ce qu'ont fait la plupart de ses anciens amis, qui tout d'un coup ont dit « Mais qu'est-ce qu'on peut gagner dans cette affaire ? Ça y est. » Et ça, c'est, si je puis dire, il n'y a pas de loi en histoire, mais c'est malgré tout quelque chose qu'on rencontre bien souvent. C'est-à-dire qu'on fait un coup d'éclat dans sa jeunesse, à 20 ans. Et après, on s'assoit là-dessus comme une sorte d'autorité morale pour pouvoir en tirer profit, bénéfice, tout au long de sa vie. Je n'ai pas d'exemple, mais chacun choisit le sien. Pour les événements 68, on prend un jeune, Cohn-Bendit, vous voyez, fait éclat, puis après, on fait de la politique, puis on vit sur cette gloire qui a été la sienne à 20 ans. Bon, ça, c'est quand même un grand danger qui nous guette tous. C'est d'un coup de faire la politique de sa propre mystique. C'est ce qui s'est passé, il s'agira de montrer ensuite, avec l'affaire Dreyfus, quand progressivement, précisément, Dreyfus a été, non pas acquitté, mais amnistié. Ce qui était pour Peggy, évidemment, une démission. Mais c'est que progressivement, tous ces gens-là, qui d'abord avaient perdu leur poste, comme Jean Jaurès, pour lutter contre l'innocence d'un homme, eh bien, après, ont réussi à obtenir tout leur poste, leur carrière, leur fortune électorale, grâce à l'affaire Dreyfus. Oui. Et donc, ils ont oublié le monde qu'ils avaient promis pour pouvoir fonder quoi à la place ? Un parti politique. En 1900, on crée un parti. Vous voyez ? On commence à défendre sa prébende et ses propres affaires. Donc voici la question qui me semble rectrice dans la pensée de Peggy. C'est, voilà, c'est comment cet événement-là a-t-il manqué de s'instituer dans le monde, comme il le dit, éternellement, temporellement ? Comment cet événement-là a-t-il manqué de faire monde ? Comment, au lieu d'ouvrir un monde nouveau, a-t-il débouché sur le désastre de la modernité ? Pourquoi ça n'a pas pris ? Comment le monde socialiste, au fond, qu'il promettait, a-t-il pu s'évanouir au profit du monde moderne ? Voilà, donc c'est ces questions-là. Ce qui m'invite à revenir justement sur ces premiers ouvrages, que beaucoup considèrent comme étant des œuvres de jeunesse sans importance, à savoir De la Cité Harmonieuse, Marcel de la Cité Harmonieuse, et même sa première Jeanne d'Arc, qu'il écrit au même moment, en 1897. L'année où il passe la grègue. C'est après on se dit, mais il a raté l'agrégation de philo. Enfin, cette année-là, juste je rappelle ce qu'il faisait. Hein. Il se mariait, il avait un enfant, Marcel. Il fondait une librairie et il écrivait deux livres. Bon, après, il a raté l'agrégation. Je pense qu'il ne le voulait pas vraiment. C'est-à-dire que son affaire était déjà ailleurs. Il considérait que, d'ailleurs, les concours arrivaient beaucoup trop tard dans une vie d'homme et qu'il était déjà formé, qu'il n'avait pas besoin d'avoir l'adoubement d'une institution à ce moment-là. Bien. Donc, ces écrits-là sont pas, comme le dit Romain Rolland, des berquinades. C'est ce à quoi il a d'abord cru, dur comme fer. Ce monde socialiste, cette cité harmonieuse qu'il décrit dans son premier livre, Marcel, premier dialogue de la cité harmonieuse. Et là, si vous le lisez, c'est un peu rébarbatif, mais en fait, c'est passionnant quand on va dans le détail. Il dépeint une cité des âmes, une cité morale, libre, travailleuse, fraternelle. Tout le monde travaille dans sa cité. On ne travaille pas pour l'argent. Hein. On ne travaille pas pour avoir du mérite. Chacun doit travailler, justement, faire sa part matérielle à la cité. Et chacun, justement, doit, à partir de cette base matérielle, pouvoir s'épanouir aussi spirituellement. Et cette cité harmonieuse, et ce que, justement, j'aimerais ici dire, ce n'est pas une utopie. J'aurais peut-être dû d'ailleurs davantage insister. Si j'avais su que Philanthropos était une communauté comme celle, si je puis dire, que Peggy pouvait imaginer pour lui-même, j'aurais davantage insisté sur la manière dont il envisageait cette cité. Parce que ça n'a rien d'une utopie. Les commentateurs tous s'accordent pour dire que c'était une utopie. Et d'ailleurs, ils s'accordent exactement comme Marx pour critiquer le socialisme français comme étant un socialisme utopique. Utopie n'a jamais appartenu au vocabulaire du pays. C'est-à-dire que cette cité-là n'avait rien d'utopique. Alors on dit, mais si, lorsqu'il était normalien, dans Saturne, il y avait marqué « Utopie » à l'entrée. C'était la seule raison. Mais en fait, non, c'est que je me suis renseigné, j'ai enquêté. C'était simplement le canif très moqueur de ses compagnons qui avait marqué « Utopie » sur sa porte. C'est pas lui. Hein. C'est ce qu'on lui reprochait éventuellement. Mais lui n'avait jamais considéré cette cité comme étant utopique. Encore une fois, c'est un mot qui n'appartient pas à son vocabulaire. Il y a plusieurs raisons à ça. Je peux en donner une. C'est que justement, pour lui, c'était pas du tout un château dans le ciel, un rêve, quelque chose, si je puis dire, à quoi on pense pendant les épreuves de la tempête, vous voyez, en disant, mais plus tard, il y aura quelque chose. Vous voyez, non, pas du tout. C'était déjà quelque chose qui existait là, ici et maintenant. C'est-à-dire qu'on exerce, même en petit, dans sa maison. Avant de l'envisager en grand dans la cité, c'est quelque chose, si je puis dire, qui se fait dans la maison. Et les Cahiers de la Quinzaine, c'était une petite boutique, mais si je puis dire, où se réalisait vraiment la cité harmonieuse. Alors, il faut savoir que déjà, les chats, les chiens, les animaux étaient des citoyens comme les autres. Simplement, dont l'âme était adolescente. Bon, il fallait s'en occuper. Mais il y avait des chats, des chiens aussi dans cette boutique des Cahiers de la Quinzaine. Ils étaient végétariens, Peggy. On ne devait absolument pas s'en servir comme bête de somme pour le travail, ni pour les manger, etc. On était en 1800... qu'est-ce que j'avais dit ? 98, 97. Oui, c'est quand même assez étonnant. Donc non, c'était déjà en germe. Comme la vie, les choses commencent en petit, hein, avant de s'épanouir. Donc utopie, ça veut dire non-lieu. Il n'y a pas de ici et maintenant. Mais si, il y avait ici quelque chose déjà qui se faisait, qui travaillait. Pour lui, être socialiste, c'était vivre en socialiste. Et à ce moment-là, déjà, la cité, même en petit, dans la maison, pouvait déjà se réaliser avant, si je peux dire, prendre les dimensions d'une cité tout entière. Donc ça, c'est déjà la première raison pour laquelle il faut refuser ce terme d'utopie, s'agissant même du socialisme à la française. Et j'aurai l'occasion, parce que moi, je fais des digressions, du coup. J'essaie de m'adapter au public. Pourquoi est-il aussi intéressant maintenant ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le marxisme est mort. Enfin, je veux dire, il a fait son temps. Et c'est que c'est ce marxisme-là qui a étouffé dans l'œuf tout ce socialisme, toutes ces propositions socialistes françaises qui avaient germé au XIXe siècle et qui n'ont pas eu leur chance. Ce serait au fond comme ces éclats de futur, pour parler comme Benjamin, qui aujourd'hui peuvent être récupérés, exploités et redeviennent intéressants. Au fond, c'est maintenant que le Parti socialiste est mort aussi que peut-être d'autres options peuvent s'envisager. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle Peggy, Proudhon ou tant d'autres voilà, redeviennent aujourd'hui intéressants. Et que ce sont des socialismes qui n'ont rien d'utopique. Simplement, comme je vous l'avais dit, ce que Peggy refuse, c'est d'imaginer ou d'inscrire le monde socialiste ou le socialisme au terme d'un progrès dans l'humanité, comme si chaque monde, si je puis dire, devait s'enchaîner automatiquement avec les précédents, selon un processus réglé qui serait, selon le terme de Jaurès, une fatalité bienveillante, ou selon le terme de Marx, une dialectique économique. Hein, comme si je puis dire, voilà, la chose pouvait se faire sans les hommes. Que la révolution pouvait se faire sans les hommes. Alors que pour Peggy, justement, une révolution, la révolution socialiste, ce n'était pas justement un processus extérieur, objectif, dont on pouvait faire la science. La révolution, elle était intérieure. Les grandes révolutions, elles sont intérieures, elles sont affaires de conversion. C'était une véritable conversion. C'est-à-dire que c'est la seule fois où, d'ailleurs, Peggy parle de conversion. Il parle, la conversion, il dit, je n'ai pas fait une adhésion au Parti socialiste, mais je me suis converti. Et c'est justement au bout de cette conversion que, 15 ans plus tard, il va dire, mais en fait, non, je m'étais, sans le savoir, converti au christianisme. Enfin, ça, peu importe. Mais vous voyez, là, c'était une affaire de conversion, convaincu justement que la révolution, il est besoin que les hommes la fassent. Il est besoin, si je puis dire, qu'elle ait sa base dans un corps de peuple, qu'elle ne peut pas se faire sans le peuple qui lui fournit justement un corps pour s'implanter. Et c'est peut-être pour lui aussi l'erreur des révolutions russes. Alors lui, évidemment, il n'a pas en tête la révolution de 1917, mais celle de 1905. Il dit pour lui, c'était des révolutions qui étaient des têtes sans corps, parce qu'on ne faisait pas cas du peuple dans lequel justement la révolution pouvait s'inscrire. La plupart des théoriciens avaient fait leurs études en Europe, hein, des théoriciens de liberté qui, si je puis dire, avaient complètement négligé ensuite la nature très particulière du peuple serbe, du peuple slave, dont la nature était serbe pour Peggy, effectivement, d'où mon lapsus. Donc non, vous voyez, c'est une manière de la penser comme étant une conversion morale, d'abord et avant tout. Mystique, pourquoi pas, mais d'abord et avant tout morale. Et non pas comme un processus impersonnel qui peut se faire sans le peuple, éventuellement même contre lui, par des moyens violents, lutte des classes, dictature impersonnelle du prolétariat, etc., etc. Donc voilà l'idée de départ, c'est que la révolution socialiste, pour Peggy, ne s'impose pas du dehors à un peuple, elle provient de la profondeur du dedans, comme il le dit, elle est affaire de conversion intérieure. Je le dis, c'est une phrase de Peggy, c'est très simple, il dit très simple. Il dit, il faut toujours dire tristement la vérité triste, ennuyeusement la vérité ennuyeuse. Voilà. La méthode socialiste révolutionnaire consiste à changer la vie sociale, changer de vie. C'est vivre en socialiste. Donc cette révolution, pour lui, était une révolution morale, autant que sociale, et elle exige donc que l'on change de vie avant de changer la vie. C'est pas le changement, c'est maintenant, etc. On commence d'abord par soi. Comme il le dit, on commence par la révolution de nous-mêmes, hein, ici et maintenant. Donc il n'y a pas lieu d'attendre que le socialisme advienne, et on se peint une utopie lointaine pour nous rassurer. Ce dont Peggy prépare dès maintenant la naissance et la vie, c'était le socialisme. Donc on pourrait presque dire que son socialisme n'était pas une utopie, il le dit une fois, mais déjà, avant même qu'il soit chrétien, une prophétie. Et la prophétie, voilà ce qu'il dit. Alors il dit prophétie humaine, mais la définition qu'il donne de la prophétie, c'est celle-ci. La prophétie humaine ne consiste pas à imaginer un futur, mais à se représenter le futur comme s'il était déjà le présent. Être prophète, c'est se représenter le futur comme s'il était déjà présent. C'est ce qu'il a fait, si je puis dire, en vivant en socialiste. Donc, son idée, c'était que voir, parce qu'il nous décrit la cité socialiste, harmonieuse, voir la cité harmonieuse, c'était la vouloir, et la vouloir, c'était déjà être intérieurement commandé par elle pour l'action immédiate. Bref, c'était vivre en socialisme mystique et non pas vivre du socialisme politique. Donc, pourquoi a-t-il fait une revue ? Pourquoi a-t-il fondé une revue ? Encore une fois, parfois, il aurait aimé faire des écrits, des œuvres, être comme Descartes, Kant, etc. Mais il a fondé une revue. C'est que pour lui, il était nécessaire, du coup, d'enseigner le peuple, de le convertir, en lui faisant simplement voir le socialisme, et non en lui changeant de force, éventuellement, ses conditions matérielles d'existence. Donc, à ses yeux, pour convertir les consciences, eh bien, justement, il n'était nul besoin, comme il le dit, des moyens politiques habituels, trahison, mensonge, fausse promesse, fraude, sabotage, tout ce que vous voulez. Hein. C'était très simple. L'excellence du socialisme suffit à l'acquisition des consciences, en toute honnêteté. Je cite Peggy. « L'excellence du socialisme est telle que le socialisme se fait valoir lui-même. Il a une évidence autonome, automatique et antérieure. Il n'a besoin d'aucun avocat. Il ne demande qu'un démonstrateur. Il suffit qu'on le fasse voir. » C'est pas plus compliqué. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de le montrer pour qu'on y adhère de cœur, tout simplement. Et il y avait donc deux méthodes possibles. Il y a deux méthodes d'action ou d'enseignement. Vous les connaissez. Si on devait imaginer la société comme une pyramide, il y a deux manières de, si je puis dire, gagner la société. C'est soit par le sommet de la pyramide, l'élite, soit par sa base. C'est deux méthodes d'action et d'enseignement. Soit vous touchez l'élite, vous agissez sur la pointe de la pyramide et vous essayez de gagner progressivement sa base. C'est par exemple la stratégie qui a été celle de Lucien R. au même moment, qui était un grand socialiste, et qui avait choisi comme poste stratégique le poste de bibliothécaire de la rue d'Ulm, de l'École normale supérieure, parce que précisément, il pouvait toucher l'élite. Vous voyez ? On pourrait dire que si on devait transposer l'équivalent christianisme, ce serait l'Opus Dei. qui considère précisément qu'il faut toucher le sommet de la pyramide pour progressivement arriver jusqu'à sa base. Alors ça marche bien en Espagne, mais je crois qu'ils sont 1500 membres en France, ça marche pas super bien, mais c'était un peu l'idée. Ou alors il y a cette deuxième méthode d'action et d'enseignement qui consiste au contraire à s'installer à la base, être du peuple et enseigner le peuple. Et c'est ce que va choisir Peggy. C'est-à-dire être du peuple, enseigner le peuple et monter avec lui, si je puis dire, progressivement jusqu'au sommet. Et c'est pour ça qu'il va choisir de fonder un journal socialiste qui va devenir les cahiers de la quinzaine. Et sa stratégie était simple, c'était vraiment l'idée de départ. Alors, je crois qu'il a beaucoup d'humour, mais je ne sais pas si j'ai réussi à le montrer ici, mais il est quand même face à un humour tragique, mais quelque chose de très beau chez Peggy. Mais son idée, elle était très simple, puisqu'il s'agit de faire voir, c'était faire appel aux jeunes gens, aux seuls jeunes gens, avant qu'ils aient atteint l'âge fatidique des 30 ans. Parce qu'après 30 ans, on est vieux et endurci, et les hommes, au fond, sont déjà contaminés par le vice bourgeois. Bon. Et donc, impossible à convertir. C'est terminé. Voilà. Donc, on ne fait appel qu'aux jeunes gens. 30 ans, c'est déjà trop tard. Mais avant cet âge, c'est ce que disait Peggy, mais il suffit de les divertir de la contamination bourgeoise pour qu'ils s'enflamment tout naturellement au contact des idées socialistes. Donc, il avait l'idée que ce journal serait distribué gratuitement aux socialistes, aux jeunes bourgeois, encore aisément convertissable, et qu'il le vendrait seulement aux vieux bourgeois inconvertissables, qui permettrait de financer le journal. Bon. Et donc, comme il le dit, on convertirait ainsi, je le cite, soigneusement les générations montantes, c'est-à-dire qu'on gagnerait de proche en proche, par ramification indéfinie, de plus en plus de monde, en laissant simplement vieillir les vieux. De telle sorte que les anciens partis s'élimineraient d'eux-mêmes, comme il le dit, selon les exigences naturelles de la vieillesse, et donc en 10 ans, en 20 ans, la révolution ne serait plus qu'à faire. Elle serait déjà presque faite. Il n'y aurait plus qu'à se baisser, si je puis dire, pour la réaliser, sans qu'il ait fallu exercer la moindre violence. Vous voyez ? Bon. Bon, ça, c'était son idée. Et c'est pour ça que vous comprenez que jamais Peggy n'a cru que cette cité harmonieuse, dont il donne des grands traits dans son premier ouvrage, devait servir simplement d'idéal régulateur. Quelque chose comme un idéal flottant, inatteignable, comme il le dit, ça aurait été un rêve social. Donc il était simplement pour lui nécessaire d'enseigner le peuple, que pour lui il estimait qu'il méritait autre chose que des brochures ou des tracts, mais aussi des revues, des ouvrages, comme les autres. Et c'est en cela précisément qu'il avait fondé cette revue des cahiers de la quinzaine. Je le cite, « Le corps des peuples et des races fait en ce sens comme le point, comme la pointe d'insertion de l'esprit révolutionnaire dans la réalité. » Donc il ne peut y avoir pour Peggy qu'un seul socialisme, c'est ce qu'il appelle le socialisme révolutionnaire. Mais vous avez compris aussi en quel sens de la révolution. C'est-à-dire que pour lui, simplement, quand une idée, au lieu qu'on la regarde comme ça en l'air pour le plaisir, comme une sorte de jeu érotique, eh bien, on se met à la prendre au sérieux, eh bien, ça fait une révolution. C'est pas plus compliqué. Une révolution, c'est quoi ? C'est qu'une idée, au lieu de s'en amuser, de spéculer avec, eh bien, on la prend au sérieux. Voilà. Et ça, ça suffit pour faire des révolutions. Ça suffit pour que l'idée, si je puis dire, prenne chair, trouve sa souche dans le peuple lui-même. Alors, je ne me rends pas compte. Ah oui, quand même, d'accord. Ouh là là, ouh, je suis très loin. J'ai un problème avec le temps, c'est très grave. Mais il me reste encore 10, 15... si, il me reste encore 20 minutes. Oui. Alors, hein ? Quoi ?
Non, vous avez perdu des points.
Je perds des... Non, mais déjà, avec la cigarette, j'en ai perdu quelques-uns. J'ai cru comprendre.
Vous avez gagné.
Alors, c'est un de ses amis, Félicien Chalaï, parce que après la mort de Peggy, beaucoup a écrit, ont témoigné pour lui. D'ailleurs, si on devait suivre la trajectoire de ses anciens amis, on serait assez surpris de la manière dont ils ont mal fini. Enfin bon, peu importe. Dont Félicien Chalaï, regardez sur Wikipédia, vous serez bon. Peu importe. Ils ont tous fini collabo. Enfin bon, mais même peu importe. Mais Félicien Chalais rapporte une petite histoire que, qui a valeur de parabole, petite histoire que Peggy lui aurait contée un jour et qui, effectivement, a valeur de parabole. Et je la raconte parce qu'effectivement, elle est tout à fait saisissante. Elle ne se retrouve que là. C'était cette histoire qu'aimait Peggy, c'est qu'il disait qu'il y avait deux promeneurs, comme ça, qui étaient près d'une grande ville, qui se promenaient, qui allaient rejoindre le village de Sainte-Suzanne. Et à un moment, il ne trouve pas ce village, il se croit perdu, il rentre dans une ferme pour demander aux paysans du coin dans combien de temps ils y seraient. Et donc, il lui demande, le paysan est là sur le pas de sa porte, et ne répond pas. Il leur demande, mais dans combien de temps? Il ne répond toujours pas. Il dit, bon, bah, il doit être sourd, enfin, je ne sais pas. Et ils s'en vont. Le paysan les accompagne jusqu'au pas de sa porte. Il les voit marcher 30 mètres, et là, il dit, vous y serez dans une demi-heure. Et les deux promeneurs se disent, mais vous n'auriez pas pu nous le dire plus tôt? Ben non, parce que ça dépendait du pas que vous marchiez. Ça dépendait du temps que vous mettriez pour faire ces 30 mètres. Ça dépendait du pas dont vous marchiez. Voilà. Et c'est exactement cette parabole qui, pour Félicien Chalais, valait la valeur de parabole. C'est en gros, quand arriverons-nous à la cité socialiste? Voilà. Eh bien, ça dépendra du pas dont nous marchons. Hein, et qui était un pas plus ou moins rapide, plus ou moins lent, chacun le sien. Mais c'était d'abord le pas du travailleur. C'est-à-dire que l'écaillier, pour lui, obéissait d'abord à un rythme lent, hein, le pas du travailleur. C'est-à-dire qu'il craignait les conversions soudaines, les coups de fusil, les révolutions explosives. Tout ça, pour lui, était des rêves de despotisme éclairé. Hein, pas de violence. Tout ça marche au pas du travailleur, puisque toute sa cité était fondée sur le travail. Et c'est pour ça que seul le peuple avait le goût du travail et pouvait le redonner aux bourgeois. Bon, le malheur a voulu que c'est le bon Benin qui a gagné, que c'est le contraire. Et que c'est le bourgeois qui a donné le dégoût du travail, même au peuple, même aux travailleurs. Voilà, en leur donnant le goût de la grève, du sabotage, etc. Vous voyez, bon, qui sont autant, pour Peggy, de vices bourgeois. Donc c'est le contraire de ce qui s'est passé. Mais au départ, c'était ça. C'était vraiment arriver à la socialiste avec le bon pas du travailleur. Je le cite, « Sachant que la propagande est soumise aux lois ordinaires du travail, que l'on n'a rien sans peine et sans peine lente. » Donc c'était ce rythme-là. Et en même temps, comme je le disais, il y a eu l'affaire Dreyfus. Il y a eu l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire qu'il y a ce rythme que l'on se donne, que l'on s'impose, le rythme lent du pas du travailleur, et puis il y a le rythme dont on ne décide pas qui est celui de l'événement. Et on se trouve ici soudainement pris en lui, et qui allait précipiter justement le mouvement des cahiers, le mouvement du monde, fournir une sorte de véritable coup d'accélérateur à la révolution sociale, ça a été l'affaire Dreyfus. Et avec comme point d'orgue, évidemment, la tribune de Zola en janvier 1898, le J'accuse. Je cite Peggy, « Le socialisme français fut surpris, par l'affaire Dreyfus au moment où il était juste en train de prendre conscience de lui-même en tant que parti défini et organisé, au moment donc où les progrès de la théorie s'accompagnaient d'une croissance matérielle satisfaisante. » Donc il nous dit qu'au fond, quand l'affaire Dreyfus a éclaté, eh bien déjà, le socialisme était en train, nous dit Peggy, de gagner hâtivement les consciences. Je le cite, « Le socialisme fait des progrès très rapides. Il aspire en quelque façon les meilleures forces du pays. » Donc l'affaire Dreyfus au départ, c'était vraiment ce coup d'accélérateur qui allait en quelque sorte conjuguer tous les efforts vers un seul et même but, qui fait qu'au fond, naturellement, tout le monde allait devenir socialiste. Hein. Et c'est pour ça que j'ai écrit ça les mémoires d'un imbécile, c'est qu'il vraiment, il était tellement honnête qu'il pensait que c'était acquis d'avance. C'est-à-dire que il était évident qu'un socialiste devait être Dreyfusard. Il était évident qu'un socialiste qui combat toutes les injustices devait en combattre une seule. Et en retour, il était évident qu'un Dreyfusard qui combattait une injustice, allait se mettre à combattre toutes les injustices, et donc devenir socialiste. Eh bien, c'est ça qui a raté, malgré tout. Ce que je voudrais vous montrer simplement, c'est qu'il nous disait que vraiment, il était convaincu de la venue imminente C'est ça qui, maintenant, m'étonne encore de plus en plus. Au point que l'affaire Dreyfus, il le dit dans Notre Jeunesse, était l'événement élu. C'était une affaire élue. Il faut que je retrouve le passage. C'est que, voilà, il croyait vraiment sa venue imminente, vraiment sur le point d'investir son corps de chair. Il croyait, lui, tous les jeunes de sa promotion normalienne, croyaient avec lui, je cite, « dur comme les mêmes tambours », que le monde socialiste était si bien sur le point de devenir le monde lui-même, le monde sans épithète, le monde tout court, tellement qu'il n'était plus besoin de faire la différence. Donc vraiment, tout semblait prêt à une mutation sociale, à laquelle justement donc, l'affaire Dreyfus, quand elle arriva, devait servir de catalyseur de force. Donc peut-être que je m'arrête pas maintenant, hein, mais pour vous montrer à quel point justement ce monde aurait dû surgir. Encore une fois, c'est que l'affaire Dreyfus, c'est un événement élu, et que ça fonctionne comme ça, la naissance d'un monde. Il faut comparer ça justement à la manière dont le monde chrétien, par exemple, a jailli. Le monde chrétien, nous dit Peggy, est né à la confluence, au confluent de trois peuples. Le peuple grec, le peuple romain et le peuple juif. Il nous dit, le peuple romain a donné le corps, le manteau militaire au monde chrétien. Le peuple grec a donné l'âme, a donné la pensée antique. Et le peuple juif n'a donné rien moins que l'événement de Dieu lui-même, a donné Dieu lui-même, voilà. Qu'il a fallu en quelque sorte, voilà, ces trois peuples, tout d'un coup, qui se conjuguent pour pouvoir faire jaillir un monde nouveau. Eh bien, de la même manière, le monde socialiste aurait dû naître à l'occasion de l'affaire Dreyfus, parce que justement, si c'était une affaire élue, c'est qu'elle était à la confluence de toutes les mystiques. Pas d'une seule, de toutes les mystiques. La mystique républicaine, la mystique chrétienne, la mystique hébraïque. Et ça, il le dit, ça n'a pas été toujours suffisamment souligné, mais quand on lit notre jeunesse, c'est ça qui est dit. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait la mystique républicaine, il nous dit, c'est-à-dire qu'il y avait, à ce moment-là, tout un peuple qui était en mal d'héroïsme, qui était prêt, en quelque sorte, à se battre comme des héros, et qui apportait avec lui le corps dans lequel le monde socialiste aurait pu s'insérer. Il disait même, le peuple républicain déjà donnait au monde socialiste sa matière et sa forme prédécoupée. Donc, première mystique républicaine. De l'autre côté, il disait, le peuple juif était là, et heureusement qu'il est là tout le temps, qui donnait à ce peuple l'occasion de réveiller son sentiment religieux, de réanimer sa vertu de charité, en lui révélant par la bouche de son prophète, Bernard Lazare, que le capitaine Dreyfus était innocent. Donc il y avait la mystique hébraïque qui jouait son rôle, qui est d'apporter des prophètes. Ça, c'est l'idée de Peggy, c'est que la fonction de la race juive, c'est que régulièrement, il y a des prophètes qui sont là et qui permettent justement de secouer la société, de l'empêcher de s'endormir. Et là, tout d'un coup, il y a Bernard Lazare qui rappelle un peuple à lui-même et à sa propre mémoire, à sa mémoire républicaine, en mal d'héroïsme, et à sa mémoire chrétienne, à sa vertu de charité qui était jusqu'ici endormie, enfouie. Parce que ce dont il s'est aperçu par la suite, c'est qu'au fond, ce monde déjà moderne était déjà plus chrétien, que c'était déjà un christianisme de paroisse riche, bien endormi. Voyez. Donc tout ça permettait de réanimer et d'embraser toutes les mystiques pour qu'un nouveau monde rejaillisse. Donc je m'arrêterai presque bientôt là, mais... J'arrête. Oui, bah, je sais pas. Ou dans les questions qui seront posées. Mais évidemment, on ne peut pas excuser la haine que Peggy va ensuite vouer à Jaurès. C'est terrible, il a des mots effrayants, mais on peut la comprendre, parce que d'une certaine manière, pour lui, la trahison de Jaurès est une trahison qui a une échelle cosmique. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il nous promettait un monde, et justement parce qu'on lui avait fait un crédit immense, la déception est aussi grande en raison même de la trahison qu'il estime que le peuple a subi. Donc, effectivement, il y avait littéralement une trahison mystique. C'est que, tout d'un coup, au lieu de faire ce monde-là, eh bien, ils se sont occupés à faire un parti, à fonder un parti, et à installer, par leur propre démission, le monde moderne. Donc ça, je ne dirais pas, mais le monde moderne, en fait, il n'est pas né comme les anciens mondes. On pourrait croire, mais alors, comment est né le monde moderne ? Le monde moderne n'est né pour Peggy que de l'avortement du monde socialiste. C'est le seul monde qui n'a pas jailli d'un événement particulier, mais de l'avortement du monde socialiste qui avait été préparé. Il n'y a pas d'événement. C'est quelque chose qui s'est... C'est le contraire. C'est une sorte de contre-révolution qui a permis au monde moderne de s'installer progressivement, peu à peu. D'ailleurs, il le dit, ça remonte à très très loin. Il faut remonter à Colbert, à Richelieu, à Louis XVI même le premier, qui progressivement a installé l'État français. Et le monde moderne prend toujours le soin d'effacer ses traces de son avènement. Par ingratitude, il tue toujours ses créanciers. Donc, au lieu de remercier Louis XVI d'avoir bien commencé à installer le monde moderne, on lui a coupé la tête. Normalement, ça, c'est le processus normal d'ingratitude qui définit pour Peggy le monde moderne. Mais c'est une installation insidieuse, lente, qui est née d'abord dans l'imagination et qui n'est jamais qu'un avortement et qui s'est fait d'abord aux dépens du monde socialiste. Donc, c'est un monde, si je puis dire, complètement imaginaire pour Peggy, hein, qui n'existe pas comme les autres. Comme le monde antique, comme le monde chrétien, ou comme le monde socialiste, par ressourcement, si je puis dire, des anciennes mystiques. Et même à un moment, il le dit, c'est que c'est un monde qui n'a pas eu de père, donc il a dû s'en inventer un. Et il s'est inventé Ernest Renan comme le père du monde moderne. Ça aurait pu être Hegel, ça aurait pu être mais là, c'était Renan en France. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, parce que vous voyez, je suis intarissable quand je parle de Peggy. Tout me semble une cohérence. C'est l'homme, paraît-il, le plus contradictoire, mais j'y vois que de la cohérence. Voilà, j'y vois une grande unité, une grande fidélité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est toujours resté, si je puis dire, fidèle à l'événement qui a défini sa vie. Ces deux années lumineuses, l'affaire Dreyfus, son combat, qui pour lui est un souvenir sacré. Et quand on est fidèle à soi-même et à l'événement qui a été d'abord le sien, qui a été l'affaire Dreyfus, eh bien, c'est ça, être fidèle à sa mystique. C'est ça, empêcher, si je puis dire, qu'elle sombre dans la politique. Toujours à son détriment. Voilà, merci. Voilà, je m'arrête là. Ça n'a pas de sens.
Je peux demander à Christine, en conclusion, comment est-ce qu'on passe, justement, dans la continuité du socialisme au christianisme? Comment est-ce que Peggy l'exprime?
Alors, bah oui, je vais le dire. Parce que, mais là, c'est une lecture. D'abord, vous comprenez que par cette déception, que ayant espéré le monde socialiste et voyant venir le contraire du monde socialiste, c'est-à-dire l'absence de solidarité totale qui est le monde moderne, le Parti socialiste, qui est le contraire d'un monde, le monde capitaliste, parce qu'il dit, mais les socialistes aujourd'hui, ils vantent comme monde moderne ce qu'ils fustigent en parlant de monde capitaliste, sans s'apercevoir que c'est le même. Monde moderne, monde capitaliste, c'est exactement le même. Donc, il y a beaucoup de contradictions chez eux. Donc ensuite, effectivement, il est devenu un grand critique, un pourfendeur du monde moderne. Parce que justement, il le refusait. Il le refusait, donc il a constamment été à contre-courant de ce monde. D'ailleurs, c'est la définition de l'aventurier. Il dit, moi, je suis un aventurier du monde moderne. Aventurier, c'est quelqu'un qui marche à contre-courant. Donc c'est fatigant, quand même. Et il y a une très belle page où il se compare, sans le dire, à Hypatie. Hypatie, vous savez, c'est la dernière personne, une femme, qui a été à la tête de l'école platonicienne d'Alexandrie et qui a été assassinée, démembrée, brûlée par une horde de chrétiens en furie. Donc ça, c'est en quelque sorte... Elle a assisté au passage du monde antique au monde chrétien. Et c'est une personne qui, si je puis dire, a voulu rester fidèle à l'âme païenne, au monde antique. Elle a voulu rester, si je puis dire, accordée au monde qui avait été le sien. Elle s'est laissée ensevelir dans l'ancien monde. Eh bien, Peggy, il faudrait que je le retrouve, mais d'une certaine manière, se veut l'Hypatie du monde moderne. Ça veut dire que lui, son âme est restée accordée avec les anciens mondes, avec le monde antique, mais aussi avec le monde chrétien. En désaccord justement avec ce monde qui met tout le monde en désaccord, ce monde qui ensevelit tout, ce monde qui méprise tout, parce que justement il pense avoir progressé par rapport à ces anciens mondes. Et d'abord, il a voulu, si je puis dire, effectivement, rester en accord avec les anciens mondes. Simplement, il n'est pas Finkielkraut. Donc il n'est pas celui qui, après, par nostalgie, dit c'était mieux avant. Ouais. On pourrait croire, mais pas du tout. C'est que justement... étant à contre-courant, restant fidèle aux anciens mondes, évidemment, il a été acculé au désespoir. C'est que c'était de plus en plus dur de tenir sa boutique. Donc il est passé par la maladie, il a été cloué au lit, désespoir, il a pensé au suicide. Et donc c'est tout le surmenage, on dirait burn-out maintenant ou je ne sais quoi, pour en arriver à un moment vraiment de détresse absolue, cloué au lit, où il ouvre l'évangile, parce que c'est présent à ce moment-là, il le dit, hein, qu'on lit et qu'on lit vraiment. C'est malade. C'est-à-dire que pour lire, pour vraiment être, si je puis dire, touché par ce qu'on va lire, exposé, mis à nu, il faut être littéralement malade. Et c'est à ce moment-là, dans ce moment de désespoir, qu'il ouvre l'évangile. Donc c'est là où il va écrire Véronique, dialogue de l'âme charnelle, avec l'histoire de l'âme charnelle. Il va lire l'évangile et là, ça va le frapper de plein fouet. C'est-à-dire qu'au moment même où il a perdu toutes ses forces, et pour lui, toutes les forces se résument aux forces de l'espérance. C'est-à-dire que quand on n'a plus l'espérance, on n'a plus la santé, on n'a plus rien. Et c'est là précisément qu'il va retrouver la vertu d'espérance, qu'il va renaître à nouveau. Donc c'est pour lui au bout du chemin. C'est-à-dire que pour avoir été fidèle à sa mystique, il a été conduit au désespoir. C'est un droit chemin. Vous voyez, il est passé de Charybde en Scylla, de maladie, de souffrance, de pauvreté, de misère, de neurasthénie, de désespoir qui, au bout, l'a mené au pied de la croix. Donc c'est par approfondissement, d'une certaine manière, qu'il en est arrivé à retrouver sa vertu d'espérance et à devenir chrétien. Et comme il le dit, et je pense, c'est que, d'une certaine manière, il s'apercevait qu'il l'avait toujours été. Il le dit, il avait déjà, dans cette affaire-là, une pré-fidélité chrétienne.
Mais est-ce que c'est une résorption du socialisme dans le christianisme ? C'est-à-dire que la question, on pourrait dire, dans un premier temps, on a l'impression d'avoir les hérésies type Joachim de Flore, donc il y a un monde antique, il y a un monde chrétien, et puis il y a un monde post-chrétien qui doit devenir le monde socialiste, qui est le monde de l'esprit, après avoir été dans le monde du Christ, on est dans le monde du pur esprit. Et est-ce que tout d'un coup, il ne revient pas au monde chrétien comme indépassable ? Qu'est-ce qui reste du socialiste ? C'est ça la question.
Alors, je pense que c'est ça qu'il revient au monde chrétien comme étant indépassable, dans le sens où, au départ, il estimait qu'effectivement, le monde socialiste devait couronner le monde chrétien. C'est-à-dire que pour lui, cela devait, en quelque sorte, remonter à une mémoire encore plus enfouie, encore plus ancienne, seule capable de pouvoir, en quelque sorte, dépasser par le bas, pour ainsi dire, le monde chrétien lui-même. Et il estimait, par exemple, comme beaucoup, que la solidarité faisait mieux que la charité. Et qu'au fond, le monde socialiste de l'époque aurait eu pour Dieu, comme nouveau Dieu, la solidarité, en lieu et place de la charité. Parce qu'il estimait que la charité continuait un peu à exclure, qu'il y avait l'enfer. Et que pour lui, l'enfer, c'était le non possumus. C'était personne ne doit être exclu, on ne doit fermer la porte à personne. Et donc, d'une certaine manière, pour lui, la solidarité était beaucoup plus grande, beaucoup plus attachée à la vie. Elle n'excluait personne, même pas les animaux. Tout le monde, vous voyez. Et après, il s'est rendu compte qu'au fond, la solidarité n'était jamais qu'un appendice de la charité. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'au fond, ce monde-là, c'était, et il le dit à un moment donné, ça aurait dû être le second monde chrétien. C'est-à-dire une manière, si je puis dire, de raviver le monde chrétien qui était déjà occulté. Et que ce monde chrétien auquel il s'opposait d'abord, c'était au fond un monde déjà fatigué, un monde bourgeois, de paroisses riches, comme il le dit. Donc effectivement, c'est-à-dire que c'est lui-même qui réinterprète son propre combat, en montrant que le monde chrétien, effectivement, était proprement indépassable, et que le seul qui a réussi son événement, c'est le Christ, pour les siècles des siècles. Voyez, et que mieux que la solidarité, il y a la communion. C'est-à-dire que c'est là aussi, il va avoir toute une pensée magnifique sur la communion. Et renoncer à cette idée de solidarité comme faisant mieux, bien sûr. C'est comme ça que je dirais, voilà.
Merci.
Mais ça me semble toujours cohérent, c'est parfaitement cohérent.
Merci. Bon.
Merci. 59 000 piles.
Voilà, est-ce qu'il y a des questions alors ? On va prendre des questions. Alors ? Oui, vas-y.
Comment on peut soutenir que c'est-à-dire que 3 ou 4 événements dans l'histoire du monde, c'est quand même... C'est peser lourd sur les épaules de ces événements. Déjà, je faisais la Révolution française comme naissance du monde moderne, c'est déjà... déjà lourd pour ses épaules.
Mais bon, c'est pas ce qu'il dit. Mais,
comment on peut choisir l'affaire Dreyfus plutôt que la Révolution française? Comment on peut justifier que c'est l'affaire Dreyfus qui met fin au monde chrétien pour faire naître le monde moderne? Alors que,
non, alors.
Le consensus parle beaucoup de la
révolution française. Oui, 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 bien sûr, il s'en explique. Mais il s'agit surtout pas de dire que Peggy ait vu dans l'affaire Dreyfus l'opportunité folle que le monde moderne advienne. Ça a été plutôt un désastre. Il attendait autre chose de cette affaire-là. Oui, il estimait, si je puis dire, que les anciennes révolutions, dont la révolution française, qui étaient très belles, mais étaient des révolutions ratées. Parce que justement, elles avaient été jusqu'ici impréparées. Donc il serait plutôt d'accord pour dire que la Révolution française était très belle, c'est-à-dire qu'elle a été l'occasion de grandes actions héroïques. Le peuple a été grand, mais malheureusement, il se battait pour des idées qui étaient moins grandes qu'eux. Des petites idées, des idées bourgeoises. C'est-à-dire que toute la grandeur de la Révolution française pour Peggy tient dans l'action héroïque du peuple, beaucoup plus que dans les idées. Il leur manquait un idéal. En fait, c'était une révolution qui n'avait pas été préparée. Il le dit d'ailleurs dans Clio, même la Bastille, le matin même, ils ne savaient pas qu'ils allaient prendre la Bastille. Ça s'est improvisé. Et une révolution qui est impréparée, malgré tout, finit toujours par échouer. Et c'est ce qui s'est passé à ses yeux. C'est qu'il y a eu, c'est même celle de 48 ou d'autres, qui ont été des révolutions ou des tentatives, mais qui devaient, si je puis dire, finir par s'accomplir vraiment. Et pour lui, évidemment, la révolution socialiste n'aurait été que le couronnement de toutes ces révolutions précédentes qui en étaient comme les prémices.
Moi, je pense, par rapport à la question qui est, à mon avis, très intéressante, c'est que vos générations, et à commencer par la mienne, n'a pas du tout le sens de ce dont il s'agit quand on parle de l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que,
il faut
savoir l'événement que ça a été dans l'histoire de France, et peut-être un des événements les plus importants de l'histoire de France. Et j'en veux pour témoin des auteurs, par exemple Georges Bataille, encore dans la littérature Elmal, va parler de l'affaire Dreyfus comme vraiment une sorte de paradigme de l'événement politique. Et il dit d'ailleurs la médiocrité de son époque, c'est son incapacité même à vivre une affaire Dreyfus. Bataille dit ça, qui n'est pas spécialement... Et puis, la recherche du temps perdu, enfin, le Proust, toute la recherche du temps perdu s'articule autour, d'une certaine façon...
Du côté Guermantes, c'est que
voilà,
ça.
Voilà, de ce seul événement. Hein. Donc ça a été énorme pour la France. Alors, la question, pour nous, c'est étrange, parce qu'on pourrait croire que cette affaire d'un capitaine donc juif, très assimilé, en fait, hein, mais français, mais qui est jugé comme traître... parce qu'il est juif, d'une certaine façon, que Dreyfus soit coupable, je le déduis de sa race. Hein. Je rappelle cette parole de, je ne sais plus de qui, c'est de Maurras ou de Barrès
Barrès.
De Barrès, voilà. C'est quand même quelque chose de très étrange. Or, pourquoi est-ce que c'était un événement typique? Parce que ça, c'est une chose que vous allez me dire, je suis peut-être de parti pris, mais en fait, ça relève du mystère d'Israël, même pour le catholique. C'est que quand ça concerne le juif, c'est un lieu où l'articulation du naturel et du surnaturel, en fait du politique et du religieux, se fait automatiquement. Parce que pourquoi il y a des juifs? C'est pas une nation, c'est à l'époque, c'est pas proprement parler une nation, si vous voulez. C'est pas non plus une simple religion, c'est une sorte de race, mais en même temps, d'où vient cette race? Ben, d'un événement historique qui se rattache au christianisme, à la naissance de Jésus, etc. Donc on est face à quelque chose qui relève du surnaturel, dans le naturel ou dans le politique, dans le social. Et c'est pour ça que l'affaire Dreyfus, en fait, a été un moment pour la France, c'est comme ça que Peggy le lit, à mon avis, de réarticulation de la dimension la plus politique, on pourrait dire, hein, ou de la plus sociale, ou de la plus, avec aussi une source qui est surnaturelle, qui est celle de l'histoire sainte, d'une certaine façon. Enfin, il me semble, hein, on pourrait le dire comme ça. Mais sauf que ce n'était pas sous la forme du roi très chrétien, justement. Ce n'était pas sous la forme nécessairement monarchiste. Ça pouvait prendre une forme sociale à ce moment-là. Parce que justement, c'était la question du comment le juif se présentait comme le français, comme vraiment aussi profondément français. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la grande revendication de Dreyfus c'est d'être un capitaine français. Vous voyez, c'est là où les choses se jouent.
Mais moi, j'aimerais quand même revenir à l'objection, ou je l'entends comme une objection, parce que ce que j'ai de la peine à entendre ou à comprendre, c'est le caractère universel de l'affaire Dreyfus. Parce que vous parlez pour la France, pour la France, pour la France. Ah, mais le monde antique, le monde chrétien, il n'est pas délimité à une nation. Et donc, en quoi cette affaire Dreyfus a-t-elle véritablement une portée universelle? C'est ce que j'ai plus de peine à comprendre.
D'accord. Alors, je réponds, mais je reviens, parce que c'est une objection qui a deux faces, mais sur la portée universelle. Mais d'abord, je peux comprendre effectivement, parce que la Révolution française a eu beaucoup plus d'éclat, et même elle, d'une certaine manière, elle a fait événement, puisque même elle a ouvert un nouveau calendrier, un calendrier révolutionnaire, après qui s'est résorbé, mais malgré tout, il y a eu quand même cela. Ce que rétrospectivement, l'affaire Dreyfus ne semble pas du tout avoir promis, puisqu'au bout du compte, ça a été vraiment avorté comme dans l'œuf. Et même dans les derniers écrits de Peggy, à la fin, il dit « Mais que reste-t-il de l'affaire Dreyfus ?» Rien. Un petit pli dans l'histoire. Pourquoi? Parce que justement, au regard de l'histoire, et maintenant il le dit, le monde moderne est dominé par le regard de l'historien, on mesure l'importance d'un événement au nombre de morts. Alors il dit, l'affaire Dreyfus, combien de morts? Même pas l'intéressé. Enfin, rien, zéro. Ça veut dire que dans les grandeurs qui nous importent, nous, en tant que modernes, à savoir les grandeurs de l'histoire, l'affaire Dreyfus, ce n'est rien. Mais justement, parce que l'importance ou la grandeur de cet événement avait lieu dans d'autres ordres, qui étaient l'ordre de l'esprit, l'ordre de la charité, en tout cas voilà, dans des grandeurs presque voilà, surnaturelles. Et c'est pour ça qu'il dira sans cesse Peggy, jamais au regard de l'histoire, nous n'aurons été grands. Parce que leur grandeur éventuelle vient voilà, d'ailleurs. Et après, alors, sur le côté comment cette affaire Dreyfus pouvait éventuellement avoir ce coefficient d'éclat à portée universelle. Alors ça, c'est Peggy qui le raconte assez bien. Mais c'était une croyance de l'époque. C'est qu'il dit, mais la France était en... Bon. Oui, non, mais pas du tout. Mais c'est la vocation universaliste. C'est-à-dire
il a épousé une Française, hein, il peut dire ce qu'il veut.
Ça,
hein.
C'est un accident, je ne veux pas quelque chose
de... Mais alors, je vais le dire en deux temps. C'est qu'il le disait comme la Révolution, quand disait la Révolution... On ne disait pas la Révolution française, il disait la Révolution tout court, parce que d'une certaine manière, la France était en avant-poste de tout, et que ce qui arrivait en France allait finir par arriver pour l'ensemble du monde. Et qu'il le disait, même pour l'affaire Dreyfus, tous les regards étaient rivés sur la France, et que cet événement-là avait un coefficient d'éclat tel qu'on a, en un sens, c'est le monde entier qui allait être engagé. Et parfois, on a encore cette illusion-là, je veux dire, nous sommes Charlie, etc., on croit toujours que c'est tout le monde regarde la France. Bon. Et après, il s'est rendu compte que, justement, c'était terminé. Que cela même était déjà une illusion avec la défaite de Sedan. Ça veut dire que, en fait, nous avions déjà été vaincus militairement et que nous avions eu encore des folies de grandeur de ce peuple que nous n'étions plus et qui avait cette mission universaliste qu'elle avait jusqu'ici. C'est que déjà, la défaite était déjà presque intérieure. Et ça, c'est dans notre patrie et dans un demi-clair-matin qui va... rétrospectivement s'apercevoir que justement la France n'a plus ce coefficient d'universalité qu'il avait cru à ce moment-là quand il était jeune et qu'on a souvent quand on est français. Donc je l'accorde. Mais c'est la réponse de Peggy. Mais qui me semble lucide, voilà, qu'il a fait quand même une sorte d'examen de conscience.
Mais c'est pas très convaincant.
Enfin, moi, je pense à une analogie avec un autre auteur. Je pense à Pierre Boutan, qui a créé ce journal La Nation française. Enfin, bon, qui est un auteur, comme on le sait, royaliste, patriote, tout ce qu'on veut. Bon, et Pierre Boutan a pensé que la guerre des Six Jours, par exemple, donc guerre israélienne, était un événement pour la France. Ce que je veux dire, c'est voilà, pourquoi ? Parce que tout d'un coup, un peuple se défendait et que la notion presque de nation s'était réfugiée. Et même l'Europe, d'une certaine façon, comme civilisation fondée sur la Bible et un rapport aux Écritures et aux Anciens, c'était comme réfugié en Israël. Alors moi, c'est comme ça que je l'entends un petit peu, c'est-à-dire cette articulation qu'il y a où l'universel concret, si l'on est chrétien, se joue toujours dans un certain rapport au mystère de l'histoire sainte et au mystère aussi de notre relation au peuple juif. Ah, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là chez Peggy. Et il avait vraiment le sens de ça. Enfin, on le voit à travers ses amitiés avec Bernard Lazare, le fait qu'il publie Israël Zangville, enfin bon, plein de choses. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi de cet ordre-là. Et c'est ça qui permettrait de comprendre.
Dreyfus aujourd'hui pourrait être, bon, pas la consonance, mais il pourrait être algérien, il pourrait être un musulman, et on pourrait avoir une affaire de ce type-là. Et donc,
ben je sais pas. Justement, je crois pas.
Biblique, mais c'est...
Je crois pas. Non, mais justement, je pense pas pour Peggy. Il y avait cette dimension-là. C'est pour ça que c'est pas analogue. C'est pas simplement, à mon avis, pour Peggy, si ça avait été un musulman ou un africain, ça n'est pas chargé du même poids. Enfin,
ça n'aurait pas eu ce coefficient d'éclat qui fait que tout d'un coup, cet événement-là, tout le monde le regarde, que le monde entier, si je puis dire. Porte ce regard. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est encore moins vrai que ça n'était. Et que lui-même disait, mais c'était évidemment peut-être aussi une certaine illusion qu'il donnait autant d'importance. Parce que nous ne sommes plus ce pays-là qui est porteur d'universalisme.
Il y a un moment, je vais te poser une question maintenant polémique, qui Péguilité. Intéresse tout le monde, forcément.
Mais je ne suis pas Peggy non plus. Enfin,
mais je couperai ça, cette dernière partie, ta réponse de notre entretien.
Non, mais ça, c'est vous, c'est décidé à rester
confidentiel. Mais la question... Non, mais à un moment, tu as parlé, enfin, je ne sais plus ce que tu évoquais, enfin, la France, je ne sais pas, tu as parlé de la Bible ou le juif, je ne sais pas. Alors, je voulais savoir ce que tu pensais d'Éric Zemmour et de son lien à Charles Péguy. Est-ce que tu... Voilà, parce que...
C'est délicat.
Non, je sais. Je voulais te mettre mal à l'aise un peu pour faire.
Non, de toute façon, Péguy, effectivement, on aura toujours considéré qu'il a dit tout et son contraire, qu'il est contradictoire et que chacun le tire à soi. Il découpe la partie qui lui convient le plus, et Zemmour le cite, encore une fois, comme Plenel, comme Finkielkraut ou comme Tando. C'est ça qui est dans même Bayrou, même les centristes se retrouvent en lui, puisque Bayrou se dit péguiste. Donc qu'on soit du centre, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, de la gauche ou de la droite, tout le monde se retrouve plus ou moins péguiste. C'est assez étonnant, parce que jusqu'ici, Péguy était quand même quelqu'un comme un philosophe moisi. Pour BHL, il ne faisait qu'évoquer la France moisie, pré-fasciste, etc. Enfin, c'était insupportable, mais il était dans une petite niche. Et que c'est tout récemment qu'il est sorti de sa niche, tout d'un coup, pour pouvoir parler et devenir quelqu'un qui parle à chacun, indépendamment même du parti qui est le sien. Donc moi, ça m'intéresse aussi.
Chez Zemmour, il y a la patrie, il y a la question de rappeler aussi, justement, la source chrétienne. Il y a différents éléments que tu as posés. Qu'il y a une dimension sociale aussi qu'on peut accompagner. C'est pas un socialiste, mais... Et voilà, donc... Il y a quand même beaucoup d'éléments. Certains pourraient se dire, bah tiens, voilà, c'est aussi là.
Bon, je connais mal le programme de Zemmour pour des invités, pour pouvoir le discuter côte à côte. Mais je dirais, vous prenez un exemple pour dire qu'il ne s'est jamais contredit. Peggy, au début, était socialiste, il disait internationaliste. Et après, on dit, mais non, il était patriote, nationaliste. Mais non, il a toujours dit « Non, j'ai toujours été internationaliste. » C'est-à-dire qu'il était entre les nations. C'est-à-dire qu'évidemment, il défendait toutes les nations. Il a toujours été internationaliste. Et dans internationaliste, il y a nationaliste. Donc il ne s'est jamais contredit. Il disait « Moi, quand j'étais tout petit, je jouais aux petits soldats et je refaisais les batailles de Waterloo, d'Austerlitz, etc. » Donc sur ce point-là aussi, il n'a pas davantage changé. Ensuite, s'agissant des racines chrétiennes, jamais Péguy ne dirait... ou ne parlerait de racines chrétiennes, qui serait une aberration, puisque d'une certaine manière, pour lui, le christianisme a consisté au contraire, à s'arracher avec toutes ses racines. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, évidemment, trouve sa souche dans la terre, dans une patrie, mais précisément pour l'enlever et lui donner une valeur surnaturelle. Donc ce serait plutôt une sève ou quelque chose comme ça. C'est très, très différent dans le vocabulaire. Donc je sais pas. Évidemment, tout le monde peut s'y reconnaître, mais tant mieux. Edwige Plenel a aussi bien raison que Zemmour. Enfin, et à la rigueur, mettre Péguy à la hauteur de ces gens-là, c'est vraiment pour moi le réduire. C'est lui donner un costume étriqué. Enfin, je veux dire que Peggy les dépasse tous d'une grande coudée. Enfin, je veux dire, et donc de dire, mais à qui il ressemble, pour moi, ce serait vraiment rapetisser Peggy. Ce serait le mettre vraiment à du prêt-à-porter, un petit costume, parce qu'il est petit, Zemmour aussi. Cela dit, Peggy aussi. Oh là là, quand j'ai su ça, 1m65. Mais c'était l'époque. On était petits à l'époque. Oui.
J'avais un prof qui avait la bonne idée, en début de cours, de citer justement Peggy, méthodologiquement, en disant qu'il y avait les cours de profs qui dispensent un savoir et qui sont animés dans l'incertitude, et qu'il y avait aussi les cours de chercheurs qui, eux, sont plutôt animés d'une grande inquiétude.
Ouais.
Et dans la manière dont vous nous rapportez Peggy, j'ai plutôt l'impression qu'il y a énormément, en tout cas sur le côté lutte, révolution et socialisme, qui a énormément de certitudes et de ça va se passer comme ça, alors qu'on est quand même en train de traiter de gens, d'affect, de rapport de pouvoir, de lutte. Et c'est là où j'arrive pas bien à comprendre quelle est son. Une sorte d'assurance comme ça que j'arrive pas trop à capter par rapport à.
Oui, non, c'est alors, oui, mais.
Par rapport à.
Alors, je réponds. Mais c'est une vraie question parce que. Il a pu se prêter à ça. Et effectivement, d'abord, il disait que même les plus grands saints sont pétris d'inquiétude. Et c'est quand même l'inquiétude qui était de mise pour lui. Et qu'il a été aussi au tout début. Je ne dirais pas qu'il avait cette certitude ou cette assurance. Il avait cette croyance inébranlable, effectivement. C'est pour ça que j'avais mis comme sous-titre le titre qu'il aurait voulu donner à ses confessions. « Mémoire d'un imbécile ». C'est qu'il a cru tout ce qu'on lui disait. C'est-à-dire que quand ses maîtres en socialisme lui disaient « mais ça va arriver », c'est pas qu'il était certain, mais c'est qu'il a cru fermement aux promesses qu'on lui a faites. C'est pas du tout quelqu'un qui était du haut de sa chair et qui allait annoncer les choses de façon certaine. C'était quelqu'un qui a été dupe, qui a été crédible, crédule. Et c'est comme ça, rétrospectivement, qu'il le dit aussi. Donc j'y vois pas du tout une assurance, un surplomb, une certitude, comme vous le dites. Après, oui, c'était une croyance, c'était une foi qu'il avait d'abord. Ensuite, cette foi, elle n'est pas du tout contradictoire à l'inquiétude elle-même. Au contraire, c'est un perpétuel inquiet.
Mais par rapport à sa revue qu'ils font et qu'ils veulent donner aux jeunes, et le temps fera l'affaire, et donc le socialisme se suffira à lui-même, il n'y aura pas besoin de la révolution, ça viendra.
Alors.
Qu'est-ce qui fait,
oui.
Je veux dire, par rapport à des marxistes qui est de son entourage, j'imagine, qui ont, eux, des velléités de lutte des classes, il y a des chefs, des capitalistes qui ont le pouvoir, qui ont qui ont des centres de pouvoir qui ne sont pas juste. On discute de la révolution dans un salon.
Non, mais la question est très juste. En plus, ça oblige vraiment à rentrer dans les nuances. D'abord, effectivement, il était contre Ged, parce qu'il était le marxisme de l'époque. Il faut savoir que les marxistes...
Jules Ged,
qui était anti-Dreyfusard, parce que pour lui, se battre pour Dreyfus, c'était se battre pour l'innocence d'un bourgeois, et c'était détourner des véritables causes sociales. Ce n'était pas défendre la cause du peuple. Donc, en cela, il s'opposait frontalement. Mais là où vous avez raison, je ne dirais pas que c'est quelque chose d'automatique. Il le disait, c'était avec le rythme lent du travailleur, une acquisition qui se faisait, mais effectivement avec une confiance telle qu'il parlait aussi en termes de progrès. En fait, lui-même, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'au tout début, il pensait comme Ernest Renan, parce que Ernest Renan, lui aussi, ça a été, malgré tout, ses premières lectures. Il pensait que le monde moderne devait être purement transitoire pour pouvoir aboutir au monde socialiste. Et donc, au début, même lui avait un vocabulaire moderne. C'est-à-dire que là, même les passages que je vous ai cités au tout début, il parle de progrès, du progrès des consciences. C'est-à-dire qu'il avait, malgré tout, encore, comme Bernard Lazare. Bernard Lazare ne savait pas... C'est Peggy qui en a fait un prophète. Mais Peggy disait que Bernard Lazare était persuadé qu'il était journaliste, moderne, athée, etc. Sans savoir qu'en fait, il avait une langue de feu et que par sa bouche, c'était le prophète qui parlait. Et bien, de la même manière, Peggy était d'abord moderne dans sa manière de parler, vous voyez, et était convaincu, si je puis dire, que le monde moderne lui-même devait déboucher sur un autre, au lieu de s'installer. Vous voyez. Donc, effectivement, dans son vocabulaire, il y a un certain flottement qui s'explique effectivement par ce jeu de dupes qui a été le sien d'abord, pour avoir cru Jaurès, pour avoir cru Ernest Renan et tant d'autres.
Mais j'ai l'impression que l'articulation des deux est dans ce que tu as dit, c'est-à-dire que la révolution pour Peggy n'est pas un processus, c'est pas la certitude dans un processus extérieur objectif. Si la certitude elle est du côté de la conversion personnelle, à ce moment-là, cette certitude coïncide avec une inquiétude. Parce que la grande question, c'est est-ce que je suis converti ? Est-ce que je suis assez converti ? Est-ce que j'arrive à exercer ? Tu vois, c'est pas sur le processus, en fait, alors que d'autres, c'est une certitude dans un processus.
Là, c'est quand même l'affaire de chacun. C'était une conversion morale qui devait se faire, si je puis dire, homme par homme, et non pas dans un processus objectif réglé et purement matérialiste. Donc oui, en tout cas, c'est une foi qui n'était pas contradictoire avec l'inquiétude elle-même. Après, vous voyez, j'abonde dans votre sens, parce que j'espère ne pas avoir été dogmatique dans ma façon de parler. Mais je vois qu'il y a un bouger aussi chez Peggy, et une parole qui n'est pas purement philosophique, c'est quand même une parole en acte. C'est d'abord un homme d'action. Donc c'était pas Hegel qui soigne ses concepts, vous voyez. C'est quelque chose qui s'est progressivement mis en place. Alors, oui.
Moi, je voulais juste revenir sur la question de l'utopie, puisque vous disiez que Peggy était pas du qui refusait l'utopie.
Oui.
Et qui voulait notamment une reine à Jaurès pour avoir créé un parti socialiste, un SFIO, etc. Et ma question, c'est est-ce que justement c'est pas un peu utopique d'avoir une vision d'organisation politique qui soit transpartisane ? Alors après, certes, les partis politiques ils ont un peu émergé à ce moment-là, au tournant du 19e, mais voilà. La deuxième question, c'est même si Peggy lui-même n'était pas utopique sur cette question, puisque le parti était récent, est-ce que l'héritage de Peggy aujourd'hui ne se condamne pas à une certaine forme d'utopie de vouloir un peu être au-dessus des partis ? Même si je suis quand même d'accord que les partis ne sont pas le cœur de la politique, et d'un certain côté, ils déforment la politique.
Oui, mais ça, je vois très bien, mais je dirais pas forcément utopique. Ce que vous reprocheriez alors à Peggy, ce n'est pas d'être utopique, mais plutôt idéaliste. Ou quelque chose justement qui n'est pas dans la réelle politique, le pragmatisme, justement, qui consiste quand même à fonder un parti pour pouvoir s'organiser, s'unifier. Parce qu'effectivement, ce à quoi Peggy assiste, c'est la réunification des gauches. Il y avait 5 gauches, et en 1900, il y a un grand congrès qui fait que tout d'un coup, on fonde le Parti socialiste, qui est pour Peggy, justement, la démission de quelque chose qui dépassait le simple mouvement politique. Mais ça, à la rigueur, chez Peggy ou comme tant d'autres, il faut souvent se rappeler qu'au XIXe siècle, le socialisme, c'était quasiment un mouvement religieux, enfin un mouvement d'idées, de sentiments, qui dépassait largement la simple action politique. Donc la Peggy ne fait que participer à quelque chose voilà, qui appartient à son siècle. Ensuite, on pourrait lui reprocher, effectivement, par rapport à Jaurès, d'être idéaliste. Ça veut dire de ne pas composer avec l'adversaire, de ne pas trouver des compromis. Oui, mais c'est pas que je l'excuse, mais c'est que quand je parle d'auteur, je suis l'auteur, c'est que j'essaie de le comprendre. Enfin, ça, c'est ma façon de faire, c'est que après, je serai d'accord avec vous, mais après, quand j'essaie de. J'exerce cette bienveillance qui fait que je cherche d'abord à comprendre l'auteur dont je parle. Mais, et c'est ce qu'il dit de lui-même, qu'il a été naïf, dupe, imbécile, vous voyez. Mais je vous l'accorde, c'est que pour lui, la politique, au fond, est un compromis. Et pour lui, tout compromis est une compromission. C'est pas plus compliqué que ça. Ce qui fait que Jaurès veut des compromis. C'est-à-dire qu'il ne cesse de négocier avec l'adversaire. Il est toujours en discussion avec l'adversaire. Et bien pour Peggy, là où Jaurès croit faire des compromis, il ne fait que de la compromission. Et il oublie précisément ses propres amis. Voilà. D'où ces trahisons successives. C'est-à-dire discuter avec Gustave Hervé, discuter avec les autres au sein du Parlement. Bref, faire de la politique parlementaire.
Mais juste, Mathieu, imagine quelqu'un qui ferait un parti chrétien. Ce serait extrêmement problématique. Bon. Or, je pense que Péguy pensait le socialisme de cette façon-là, ben, c'est-à-dire comme quelque chose qui est métapolitique, ben, qui correspond au bien commun.
Absolument.
Qui est, et donc, c'est pour ça que
et c'est le seul fois où il parle de sens, catholique.
Parti socialiste.
Et voilà. même quand il n'était pas chrétien, il dit avant « je veux être catholique », au sens universel.
Oui.
Et que déjà, quand on fonde un parti, on est partisan. On est dans une logique d'opposition. Et la politique, c'est précisément, c'est pas celui qui est pour. Être d'un parti, c'est déjà d'être contre. C'est-à-dire de s'opposer à un autre parti. La politique est une logique binaire. C'est ça aussi qui constitue la vie politique française. C'est d'être d'opposition. Là, l'idée de Péguy, c'est que par les mystiques, tout le monde se réunit. Ça veut dire qu'il y a une certaine unité qui fait que, par exemple, même dans sa grandeur, on peut être d'accord avec son adversaire. Mais dans sa petitesse, on est contre. Et donc, on pouvait très bien, parfois, ben oui, se reconnaître aussi en Barès ou dans d'autres. Il y a une certaine grandeur qui est la mystique, où finalement, on peut même rejoindre l'adversaire.
Une question d'information, parce que je suis au courant. Il y a un lien de filiation entre Simone Weil et Péguy. Je parle bien sûr...
Alors, non, mais c'est beaucoup de lecteurs qui le font. C'est... Simone Veil ne connaissait pas très bien Péguy, on ne disait pas forcément du bien parce que ce n'était pas l'époque qui le voulait. Mais alors, j'ai que d'amis qui sont lecteurs de Péguy, de Simone Veil, en disant « mais c'est les mêmes ». Il y a effectivement beaucoup de points communs. À ceci près que Péguy l'a su irréprochable. Enfin, Simone Veil est juive, mais elle est quand même une position quand même très, très complexe. Mais Péguy, il faut savoir qu'il était dans un temps où il était de très bon ton d'être antisémite. Il y avait un antisémitisme de salon, où si tu voulais faire carré, c'était très facile d'abonder dans ce sens-là. Et que Péguy, jusqu'à la fin, il est resté intraitable. Intraitable. Genre, il est resté vraiment avec une amitié indéfectible avec la question juive. Et que pour moi, il suffit de lire de notre jeunesse pour que des prétendues velléités d'antisémitisme s'étouffent tout de suite aussitôt. Je n'ai jamais vu des arguments aussi formidables que dans notre jeunesse. Enfin, je vois. Mais oui, vous avez raison.
Oui, tu dis ça par opposition à l'anti-judaïsme de Simone Veil,
oui.
Qui était juif,
oui.
Mais qui était anti.
Mais il y avait un marxisme, comme on dit, où il y avait quelque chose qui était. Alors que pour Péguy, au contraire, non. C'est que toutes les cités, toutes les mystiques doivent participer.
Puis quand on est grand. Il n'y a pas le même rapport à la guerre aussi.
Hein. Oui.
Très différent. Oui, allez, une dernière, deux questions. Attends, alors, Sifrène, oui. Tu pourras poser ta question après. Non, j'ai pas peur. Non,
je vais revenir sur l'événement que je dis Dreyfus. Est-ce que, de toute façon, on ne s'engage pas vraiment en politique que parce qu'on voit à travers un événement le germe de l'événement qui brillait ce monde-là.
À chaque génération.
Oui.
Voilà. Donc c'est pour ça qu'il prend un événement contemporain. Enfin,
le sien. Après, il pense quand même qu'il a vécu dans un moment assez creux de l'histoire. Donc souvent, il s'estime vaincu. Enfin, le seul événement, ça a été l'affaire Dreyfus, qui, rétrospectivement, n'était rien. Donc il estime avoir vécu une période. Il distinguait l'histoire entre les époques où il se passe plein de choses, il y a plein de nœuds, et lui, il a vécu dans un désert, dans une période où il se passe rien.
En France.
Mais il parlait du mécanisme des siècles, c'est que...
Qu'est-ce qui se passe en Suisse, à
cette époque ? Qu'est-ce qui se passe en Suisse ?
Bien que tu m'expliques, là.
Il faudrait voir, mais peut-être.
Il y a d'autres raisons.
mais parfois, il trouve... admirable ces destins d'hommes qui sont rentrés dans le plein de leur siècle. Parce que pour lui, il y a un mécanisme naturel du siècle. Victor Hugo, mon siècle avait 2 ans, il a fait le plein, il a vécu toutes les articulations de l'histoire de son siècle. Lui, si je puis dire, il est, comme nous d'ailleurs, entre 2 siècles. On a un pied dans un siècle, et il est né en 1873, ou en 1874. Effectivement, on est nulle part. On a un pied au 20e, un pied au 21e, et on manque, au fond, ces articulations. Et on vit parfois des périodes. Et il estime que la sienne était une période. C'est vrai, juste après la guerre de Sedan, et puis il est mort à la veille de la bataille de la Marne, au tout début de la guerre de 14. De manière presque folle et suicidaire. Mais...
Bon, je rappelle qu'Anders dit qu'on n'est même pas dans une période, mais dans un délai.
Voilà, exactement.
Passer de d'époque à période et à délai, maintenant.
Et j'irai même plus loin, peut-être sursis. Le sursis du condamné à mort. Et donc, c'est dans ces périodes-là qu'il n'y a pas beaucoup d'événements. Mais pour lui, d'ailleurs, il estimait que maintenant, voilà, il faut un corps de peuple pour qu'il y ait ces événements-là. Alors, peut-être que 68 a été, pour toute une génération, justement, ce moment qui avait en lui la promesse d'un monde qui n'a pas eu lieu. On pourrait retrouver exactement la même configuration. Et qui a débouché sur la société de consommation. Enfin, le contraire de ce qui avait été promis. On peut retrouver exactement la même logique.
Voilà, merci. Bien, bon, on va s'arrêter là.